Benoît Véril, vous êtes éditeur, vous avez une maison d'édition à Lille, c'est ça ?
Oui, tout à fait. En tout cas, le siège est à Lille.
Vous êtes à la tête de cette maison ou vous êtes plusieurs éditeurs ?
Alors non, c'est une maison que j'ai fondée, moi, il y a un peu plus de 16 ans maintenant. Mon amie m'accompagne beaucoup aussi dans ce travail, Marielle Leroy, qui est par ailleurs traductrice, une partie du choix, en tout cas, des publications de langue espagnole.
Comment s'appelle cette maison ?
La Contralée.
La Contralée. Et vous avez une spécialité, si on peut dire ça comme ça ?
Je ne sais pas si on a une spécialité, mais en tout cas, on est très, très attaché aux littératures contemporaines françaises, de langue française. Et dans le catalogue, il y a aussi une très grosse place faite à la traduction. Beaucoup de traductions, un festival autour de la traduction pour générer du dialogue autour de ces enjeux-là. Une collection qu'on appelle Contrebande, qui est consacrée aux traducteurs et aux traductrices. Des textes qui nous permettent de partager leur expérience, en fait. Ce ne sont pas des essais de traductologie, ce sont plutôt des récits d'expérience, même pas.
C'est compliqué, la traduction.
Oui, c'est un enjeu, ouais. Ouais, bien sûr, tout à fait.
Alors aujourd'hui, vous étiez présent à Manos ce matin pour un exercice un peu particulier et très intéressant, intitulé le Labo de l'édition, avec des lycéens. Alors de quoi s'agissait-il ?
C'est fou, hein ? Vous avez assisté aux échanges ? Ah, ok. Alors dans l'idée, c'est de présenter trois manuscrits en amont de cette rencontre, où le nom de l'auteur ou de l'autrice n'apparaît pas, il y a le titre, voilà.
Ce sont de réels manuscrits.
Hein. Oui, tout à fait, ce sont des manuscrits que l'on a reçus, que j'ai choisis en connaissance de cause. C'est-à-dire que je savais qu'on allait avoir des échanges avec des lycéens, des lycéennes, puis des personnes, pour le coup, plus âgées après, ensuite. Mais, et puis aussi, des fois, une contrainte de temporalité. C'est la rentrée, c'était il y a 3 semaines, 1 mois. Donc, le temps. Donc voilà, ce sont 2-3 éléments comme ça qu'on a essayé de prendre en compte pour que se donner le maximum de chances de pouvoir échanger au maximum sur ces textes. Voilà. Mais l'idée, c'est pour eux et elles de se mettre dans la peau de quelqu'un qui serait au sein d'une maison d'édition et qui doit décider de la suite à donner à ses manuscrits, notamment de l'éditer ou pas. Ou mieux encore, qu'est-ce que l'on peut soulever comme questionnement sur chacun des manuscrits et puis d'en parler, d'évoquer. On a pu entendre ce matin finalement des avis assez contradictoires et parfois même finalement qui pouvaient dire on a pu sentir l'oscillation entre ce qui pouvait au préalable être un point de vue négatif et en évoluant dans l'échange et dans la réflexion sur les avis, se transformer comme une nécessité, des fois donc plutôt devenir un aspect positif du texte. Vous voyez, et ça c'est quand même des fois ce qui se passe à la lecture d'un manuscrit, vous partez, vous avancez, un a priori se dessine et puis il évolue potentiellement dans le temps.
D'ailleurs, est-ce que plusieurs personnes, c'est une décision collégiale, un tapuscrit, parce que souvent ils sont plus tapés qu'écrits.
Alors ça, on aurait pu souligner ça ce matin, on a souvent entendu moitié de la classe pour, moitié de la classe contre. Vous voyez, il y a toujours quelqu'un qui doit donc trancher, ça c'est ma place. Donc autant je peux solliciter beaucoup d'avis pour contrarier le mien, en général. Qu'il n'y a pas de comité de lecture, je pense que c'est faut assumer ses choix comme ça, c'est plus sain.
Les manuscrits que vous avez donnés à titre d'exemple étaient des manuscrits que vous aviez acceptés ou refusés ?
Les trois seront publiés.
Tels que vous les avez
montrés ? Non, pas tels quels. Non, parce que quand j'ai proposé les manuscrits, c'était déjà une génération de manuscrits. On a depuis, pour certains, pas mal travaillé dessus. Donc ça, c'est certain. On n'arrive pas... Moi, j'arrive aujourd'hui, par exemple, sur le dernier texte transatlantique qui fera l'objet de notre prochaine rentrée littéraire. Ça, c'est un texte qui a déjà beaucoup bougé entre-temps. Voilà. Et d'ailleurs, des questionnements que toutes et tous ont soulevés sont ceux que l'on a partagés souvent avec la personne qui est l'auteur de ce texte.
Et ce sont des textes et des thèmes qui touchent beaucoup les jeunes, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses actuelles selon eux.
Bah, je pense, ouais. C'était un enseignement pour moi ce matin, c'était de voir comment ils allaient... Il et elle réagir sur, au moins notamment sur deux des textes qui pouvaient les toucher, enfin que j'imaginais pouvoir les toucher assez directement.
Ce qui est assez émouvant, c'est les entendre lire ces textes avec pas mal d'emphase.
Bah ça, franchement, écoutez, il y a en plus les lectures en VO, là, ça c'était super pour la traduction, mais surtout d'entendre le texte. J'étais venu l'année dernière par curiosité parce que j'étais très intrigué par ce labo, donc grâce aux organisateurs et organisatrices de ce festival, j'en ai pu faire un aller-retour rapidement. et assister au labo. Parce que je me demandais bien ce que ça pouvait donner quand même, discuter de tapuscrit comme ça en public, c'est pas simple. Ça m'avait bien touché ça. Je trouve que là, cette année, le petit cadeau qui est fait à toutes et tous, et à moi en premier peut-être, c'est qu'on a donné à entendre les textes. Je trouve qu'on est quand même en France assez balèze pour parler des textes, mais alors on les entend rarement. Vous voyez, sur les rencontres, tout ça, moi je suis plutôt friand d'entendre quelque chose d'abord, que je puisse, je sais pas, ressentir. On parle de langue quand même, on parle d'oralité. Donc j'aime autant, moi, si on peut livrer du texte avant d'en parler. Et avant même de parler du texte, de parler de ce que l'on entend, de ce que l'on a ressenti. Et puis voilà, une conversation peut s'installer ensuite. J'adorerais que les rencontres littéraires, par ici et par chez moi, évoluent en ce sens en tout cas.
Oui, la lecture, mais c'est quelque chose de très charnel finalement, la littérature.
Oh bah en tout cas, si les mots touchent tant, des fois, c'est qu'on réagit émotionnellement, physiquement, avec le corps. Enfin, tout ça, ça réagit. Donc avant d'avoir une réflexion, quelque chose de plus cérébral sur ce qu'on vient de lire, on le ressent. Au même titre que quand il y a quelque chose auquel on n'adhère pas nécessairement, il faut se laisser des fois gagner, comme ça. Donc c'est par le champ d'une émotion, on arrive à faire évoluer un discours. Sinon, ce sont des avis arrêtés qui se confrontent. On voit difficilement les lignes bouger comme ça. Donc il faut passer par un autre prisme, quelque chose qui réagit chez nous. Et surtout, cultiver le fait d'être à l'écoute de ça. C'est notre chance. C'est par là que passe l'espoir quand même. Un changement, quoi.
C'est peut-être une des raisons qui pousse autant de gens à lire en France. Parce que finalement, il y a beaucoup de lecteurs. Selon vous, vous qui êtes, faites partie d'une maison d'édition, vous rendez compte du nombre de lecteurs ou...
Je ne sais pas si je me rends compte du nombre de lecteurs. Je sais qu'il y a toujours l'idée de comment on accède à certains types de textes, quel type de texte on lit. La prescription, elle est déterminante quand même. Voilà, les avis des médias, tout ça, ça compte. Alors nous, on s'appuie définitivement davantage sur la prescription dite des libraires. Et donc, s'il y avait une lutte à mener, c'est de préserver, de nous mobiliser toutes et tous. Je voyais des élus là se déplacer, accompagner le maintien de librairies dans les villes, à différents endroits de la ville, et peut-être de réfléchir aussi finalement à ce commerce où les marges, elles sont tellement faibles, parce qu'on parle de création, là, d'accompagnement de la création, à accompagner certaines démarches dans les implantations, dans les installations, dans la modération des loyers. Ça nous rendrait service à tous et toutes. On parle beaucoup de politique culturelle, d'accompagnement, de subventions, de ceci, de cela. C'est bien les subventions, on est d'accord, mais il y a plein de choses qui pourraient déjà se faire très concrètement en agissant sur l'endroit où on vit, donc qu'on parle de ruralité ou d'aspect plus urbain. En tout cas, cet accompagnement de ces endroits de rencontre quand même que sont des librairies. La librairie, c'est pas seulement un endroit où il y a des livres sur une table, c'est quand même ça, c'est quelque chose qui matérialise l'endroit peut-être, mais on le matérialise aussi par la capacité, la proposition culturelle qui en émane. Donc vous voyez, c'est difficile aujourd'hui de savoir si on lit plus ou on lit moins, on lit très différemment, ça c'est un fait. Voilà, peut-être que les grands, ce qu'on appelait les grands lecteurs, les grandes lectrices, elles aussi lisent différemment. Pour des maisons comme la mienne où on travaille beaucoup sur les enjeux de création, on est assez dépendant quand même de cette histoire-là. Il y a les grosses prescriptions. Aujourd'hui, on va voir des textes à sortir sur des listes de grands prix littéraires. C'est normal qu'ils attirent la curiosité et c'est aussi normal de suivre des auteurs et des autrices qu'on aime lire. Voilà, ça crée des choix quand même dans le porte-monnaie. Il faut vivre avec ça. Donc, plus que jamais, on a besoin du conseil pour nous éclairer dans un choix supplémentaire. Voilà. Et pour une maison comme la Contralée, c'est ce choix supplémentaire qui est déterminant. Oui.
Alors enfin, Benoît Véril, la Contralée justement, qu'est-ce que vous allez proposer pour cette rentrée? Est-ce que vous avez des romans à mettre en avant?
Oui, là, on vient de... en parlant de libraire, vous voyez, on est très content parce qu'hier, on a pu voir un petit peu le palmarès des livres les plus accompagnés, en tout cas conseillés par les libraires dans la fameuse revue professionnelle Livre Hebdo, là. Et donc, La Morelle Noire, un texte de Thérèse Amour, une autrice galicienne, traduite par Marielle Leroy. Ça, c'est notre livre de rentrée. À la rentrée, on ne propose toujours qu'un seul ouvrage, soit en littérature contemporaine française ou étrangère. On met toutes nos forces sur ce texte-là. On parle beaucoup de trop de propositions autour de nous. En tout cas, nous, on se concentre sur ce choix-là. C'est un choix, du coup, assez radical, très, très... très délicat dans le sens où si ça rate, on se fait un peu mal. Hein.
De quoi parle ce livre ?
Oh, c'est un texte de sororité. C'est vraiment ces femmes qui se passent le relais ou le soin est au cœur du sujet, où on a un personnage qui joue sur les formes, parce qu'on a peut-être un personnage qui est en filigrane comme ça tout au long de l'ouvrage qui s'appelle Descartes. Et ce sont des femmes qui ont soit travaillé sur la proposition de Descartes ou autour de Descartes, mais on peut dire qu'il en prend pour son grade, notre ami Descartes.
Benoît Véril, merci beaucoup.
Merci à vous.